satisfait après la levée de ces sanctions qu'il juge illégales et inhumaines.
Merci Yacouba, et allons maintenant dans le débat avec nos invités. À Bamako, nous avons Sékou Tangara, journaliste directeur d'Africable, qui est une des chaînes partenaires de VOA Afrique sur le continent. À Lomé, Louis Magloire Kumayou, journaliste analyste politique. Et à Paris, nous avons Niagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Merci à tous d'être avec nous. Je démarre avec vous, Sékou. Alors, on a vu que beaucoup de vos confrères ont fait un long voyage, malgré l'embargo, pour se rendre à Accra pour le sommet de la CEDEAO. Est-ce qu'il y avait un sentiment général que cette fois-ci, on allait, disons, avoir la fumée blanche? Est-ce que ces sentiments étaient basés sur quoi?
Oui, ce sentiment était déjà basé sur le fait que la Cour de justice de l'UEMOA avait déjà ordonné la suspension des sanctions, qu'elle avait jugé illégales, les sanctions de la CEDEAO. Donc, à partir de ce moment-là, pour l'ensemble des Maliens, pour la presse en l'occurrence, le sommet d'Accra n'était juste qu'un rendez-vous pour exécuter une décision de justice qui avait été prise 3 ou 4 mois auparavant. Donc pour l'invalider, ces sanctions auraient dû être levées bien plus en avant. La CEDEAO, en exécutant l'ordonnance de la Cour de justice du mois, n'a pas lâché que du lest, puisque le dossier malien était devenu une espèce de patate chaude qui pouvait inspirer à côté le Burkina Faso ou la Guinée. Beaucoup pensaient que le Mali, dans sa posture, avait montré la voie, comment de façon légale, comment de façon sans aller à l'encontre de la justice, on pouvait faire respecter ses droits de la part d'une institution sous le journal comme la CEDEAO.
Ok. Alors, l'une gloire, d'un côté, le pouvoir malien qui publie un calendrier électoral, et de l'autre, la CEDEAO qui revient un peu sur une exigence d'une transition de 18 mois, et le président togolais aussi qui prend son bâton de pèlerin. Pour vous, qu'est-ce qui a été le plus déterminant dans ce rapprochement?
Ce n'est pas qu'il y a aujourd'hui quelque chose qui est très important, c'est que les décisions qui ont été prises pour sanctionner le Mali, le Burkina et la Guinée sont basées sur le protocole additionnel de la CEDEAO en matière de démocratie et de bonne gouvernance. Mais ce protocole, pour le moment, au sein des populations de la CEDEAO, on a l'impression qu'il ne marche que quand il s'agit de la démocratie et pas forcément de la bonne gouvernance. Et donc ce ressentiment que l'on a eu, aussi bien au Mali que dans certains autres pays, la CEDEAO dans les opinions publiques est montée jusqu'aux dirigeants de la CEDEAO. Et ils ont compris quelque part que le seul élément qui permet de marcher n'est pas la démocratie, n'est pas uniquement la démocratie. Il faut certes la démocratie, mais il y a un pays comme la Côte d'Ivoire dont est ressortissant le président de la commission de la CEDEAO qui a organisé des élections énormément financées par la communauté internationale, qui ont disposé des meilleurs moyens, des meilleures conditions pour être organisées, mais qui ont débouché sur une crise post-électorale. Donc si l'élection n'est pas la solution, il faut probablement réfléchir à autre chose, et c'est à cette autre chose-là que se sont attelés et le médiateur, le président togolais, et ses homologues de la CEDEAO pour lever les sanctions.
D'accord. Alors Niagale, la CEDEAO a-t-elle fait le bon choix, surtout face à ce que lui reprochait d'avoir été plus patient avec le Burkina et la Guinée, mais également qui sont des pays dirigés par des militaires, et un peu comme disait Louis Magloire, un peu avec d'autres systèmes où on parle de violation de la Constitution aussi.
Alors, la CEDEAO, aujourd'hui, dans ces crises, hein, et particulièrement dans la crise malienne, joue véritablement à la fois sa crédibilité et sa légitimité. Au cours des derniers mois, l'organisation a vraiment été perçue par les opinions publiques ouest-africaines comme davantage un club d'État plutôt que comme une organisation œuvrant en faveur des peuples. Or, il faut rappeler que l'agenda 2007, hein, votée par les chefs d'État de l'organisation, avait pour objectif de passer d'une CDEAO des États à une CDEAO des peuples, et les dispositions prises, notamment les sanctions adoptées à l'encontre du Mali, qui, parce qu'elles étaient d'ordre économique et financier, ont heurté de plein fouet les populations maliennes dans leur quotidien, ont été perçues contraires aux intérêts de ces populations elles-mêmes. Il est très important aussi, comme le disait Louis Magloire, de rappeler que le deux poids, deux mesures qui semble présider à l'application de ce fameux protocole de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance contribue à saper la légitimité et l'audience de la CDEAO. Donc, il était urgent pour elle d'adopter une mesure laissant penser qu'elle était en apte à négocier de manière constructive avec des partenaires qui ont été davantage sanctionnés pour des coups d'État militaires que leurs homologues pour les manipulations constitutionnelles qui ont pu présider, notamment en Côte d'Ivoire et en Guinée, à l'accession au pouvoir, ou plutôt au renouvellement du mandat de leurs dirigeants.
D'accord. Alors, c'est que le calendrier électoral fixe à 2024 la date des élections, mais le gouvernement de transition a toujours dit que sa priorité numéro un était la sécurisation du territoire. A-t-on des raisons d'être optimiste pour que cela soit un peu le cas d'ici 2024?
Oui, tout à fait, puisque lorsque vous essayez d'observer depuis un certain moment, le gouvernement s'est engagé dans des réformes non seulement au niveau politique et institutionnel, mais également des réformes au niveau de la sécurité, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et à partir de ce document, l'appellation de l'armée malienne, ce sont les forces armées reconstituées. C'est-à-dire que ce sont les loyalistes avec les ex-combattants qui devaient veiller à la sécurisation du Mali. Ça, ce sont des réformes en cours en termes de sécurité. Et pour le gouvernement, il fallait régler ces petits problèmes d'abord, aller en profondeur avant de parler d'élections. Et à travers le programme qui a été proposé, tous ces points-là ont inscrit. On peut vraiment avoir l'esprit que tout cela peut être implémenté dans les 12 mois proposés pour le restant de la transition.
D'accord. Et vous, Louis Magloire, le calendrier électoral vous paraît-il raisonnable au vu des défis sécuritaires, ou bien pensez-vous que cela ne peut pas constituer un obstacle à l'organisation d'élections?
Je suis plutôt optimiste. Cependant, je crois qu'au-delà de l'optimisme, il faut aussi comprendre que le pays revient de loin. Il n'est pas encore sorti de la crise sécuritaire qu'il traverse. Le deuxième de son territoire continue d'être occupé par les forces djihadistes. La menace n'a pas disparu. Les moyens n'ont pas augmenté. Et l'embargo qui a été imposé au pays a quand même produit des dégâts. Donc j'espère qu'au-delà du fait de prendre acte du délai qui a été proposé par les militaires, il faudra un véritable accompagnement pour que ce délai soit respecté.
Quand vous parlez d'accompagnement, vous parlez de la CDAO ou...
Un accompagnement de la part à la fois de la CDAO, parce que c'est en termes de subsidiarité, c'est l'organisme de l'Union africaine qui est le plus apte pour intervenir dans cette région. Donc j'espère que les présidents de la CDAO, les pays de la CDAO, les partenaires au développement du Mali, que tout le monde mettra la main à la pâte, et surtout que les Maliens entre eux trouveront l'alchimie pour que ces élections aient lieu à la date échue.
D'accord. Et vous, Niagale, la donne sécuritaire peut-elle être un facteur dans la gestion du processus politique, le respect des accords avec la CDAO?
Oui, bien entendu, ce sera un élément absolument fondamental, parce que il faut rappeler que pour que le scrutin puisse se tenir dans des conditions optimales, il est en principe nécessaire que l'ensemble des populations situées sur tout le territoire du Mali puissent s'accéder au vote et au bureau de vote eux-mêmes. Or, on s'aperçoit que aujourd'hui, la situation sécuritaire ne cesse de se dégradé. On le voit avant tout dans la région de Ménaka, où les groupes armés signataires, notamment ceux de la plateforme, hein, qui sont donc proches du gouvernement de Bamako, essuient les assauts de l'État islamique au Grand Sahara. y compris l'unité dite du GPIA-8, qui est composée de membres appartenant au Gatia du général Gamou. Et l'on voit également que la situation dans le centre du pays se dégrade, se détériore de manière extrêmement préoccupante, en dépit du lancement de l'opération Kélétiki menée dans le cadre du plan Maliko. L'attaque qui a lieu sur les villages d'Ogon autour de Dialatagou il y a quelques jours et qui est attribuée cette fois-ci à la Katiba du Matina, donc affiliée au Jnim proche d'Al-Qaïda, est une démonstration du caractère extrêmement préoccupant de la situation sécuritaire sur le territoire malien. Et on pourrait rajouter que cette situation sécuritaire est tout aussi préoccupante dans les pays alentours, particulièrement au Burkina Faso et au Niger.
D'accord, on va lire rapidement quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VO Afrique. Yao Marcelin Kofi est à Abidjan. Il écrit: la CEDEAO joue enfin la carte de l'apaisement à travers cette levée des sanctions économiques et commerciales sévères contre le Mali. De toutes les façons, pour sa crédibilité, elle n'avait pas le choix. Vivement que la CEDEAO des sanctions fasse place désormais à la CEDEAO de la médiation et du compromis acceptable par toutes les parties. Archiduc Théodore est à Ndiamé. Il nous dit que c'est à la CEDEAO de tirer la leçon sur ces sanctions qu'on ne voit que lorsqu'il s'agit d'un coup d'État, qu'on ne voit pas lorsqu'il s'agit d'un coup d'État constitutionnel avec la modification de constitution pour briguer un autre mandat. Et puis Ahmadi John est à Dakar, il nous dit que la CEDEAO a atteint ses limites, d'où la nécessité de la restructuration. Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables,
les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats?
Yam, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous, c'est nous,
c'est vous et nous.
Pour la seconde partie de Washington Forum, la CEDEAO a enfin levé les sanctions contre le Mali, une décision saluée par les populations à Bamako malgré des réserves. Un reportage de notre correspondant Mohamed Bagnoko.
Ce matin, dans les kiosques, la levée des sanctions qui pèsent sur le Mali fait la une des journaux. Les populations, venues très tôt s'informer, se réjouissent de cette décision, non sans regretter l'impact que ces sanctions ont eu sur la vie des Maliens.
Moi, je suis particulièrement très content que les sanctions soient levées pour le Mali, pour les pays voisins et pour l'avenir de la CEDEAO. Parce que, à mon avis, une organisation de telle envergure est créée pour aider les populations et non pour les sanctionner et les faire souffrir.
Après la levée de ces sanctions financières et économiques, ainsi que l'ouverture des frontières, ils sont nombreux à demander aux autorités de s'attaquer aux réformes et aux questions électorales afin d'éviter au pays de nouvelles sanctions.
Franchement, la levée des sanctions, là, ça sera un soulagement pour la population. Réellement, les gens étaient fatigués. Alors, ce que nous demandons maintenant aux Maliens, c'est de s'entendre. De s'entendre et de se donner la main. Voilà. Et d'aller avec les pays de la CEDEAO. Parce qu'un pays fermé au monde, difficilement va se développer.
Pour le temps, transitaires qui pourront désormais reprendre leur activité, c'est un ouf de soulagement.
On était en chômage pendant combien de mois? On peut dire comme ça, en chômage. Parce que quand on prend Dakar, quand on prend la route de Côte d'Ivoire, presque tous nos importations viennent par là. Pendant combien de mois, presque nos conteneurs, nos véhicules sont bloqués à la frontière de Dakar. Donc si la tension a été élevée, je suis très content.
Conformément à la charte de la transition, la CEDEAO ne voudrait pas que les dirigeants civils et militaires de la transition soient candidats à la prochaine élection présidentielle. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Merci beaucoup Mohamed. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum à Bamako, c'est Koutangara, journaliste, directeur d'Africable, à Lomé, Louis Magloire Kumayou, journaliste, analyste politique, et à Paris, Niagale Bakayoko, présidente de l'African Security Sector Network. Alors, Sekou, pour le Mali, quelles sont les leçons à tirer de ce bras de fer avec la CEDEAO, où se trouve un peu l'équilibre entre la vocation panafricaniste dont se réclame le pays et sa volonté de faire valoir sa souveraineté face à des institutions comme la CEDEAO?
Pour le Mali, la première leçon, ça c'est au niveau de la capacité du pays à pouvoir faire face aux chocs endogènes. Par exemple, il est inconcevable qu'après 60 ans d'indépendance au Mali, par exemple, la capacité en termes de stockage d'hydrocarbures n'excède pas les 10 jours depuis 60 ans. Alors, il revient donc aux autorités de faire de la prospective, d'éviter des crises de ce genre, même si par ailleurs, on pense que le pays a su faire de résilience à travers la modification du code douanier. En toi, à travers la loi de finances rectificatives.
Certains ne donnaient tout de même pas 2 semaines au Mali pour tenir les
autres. Tout à fait. Quand on revient un peu au contexte, un pays qui est en guerre depuis plus de 10 ans, un pays sans littoral maritime, un pays, voilà, certains ne donnaient pas 2 à 3 jours, mais bon, peut-être c'était sans compter sur la solidarité dont ont fait preuve les peuples d'Afrique de l'Ouest, puisque quand des jeunes Sénégalais ont marché 8 km, des jeunes Guinéens 8 km, ça a un peu boosté les énergies ici et le Mali a su tenir. Ça, c'est la première leçon pour le Mali. Mais l'autre leçon, Abdramane, ça, c'est au niveau de la CEDEAO elle-même. Il y a eu une constance dans le bras de fer avec le Mali. Quand on revient aux manifestations qui ont fait partir le président Ibrahim Boubacar Keïta, la CEDEAO avait fixé une première ligne rouge qui était tout sauf le départ de l'IBECA. Le président IBK, paix à son âme, a été déposé. La CEDEAO est revenue après avec une deuxième ligne rouge par rapport à la durée de la transition qui ne devait pas excéder les 12 et les 16 mois. Et on a vu au lendemain même du sommet d'Accra, le colonel Assimi Goïta a pris un décret fixant la durée de la transition à 2 ans. Donc à chaque fois que la CEDEAO a fixé les lignes rouges, elles ont été fracassées. Ça veut dire que peut-être la légitimité n'est pas dès son ressort, il faut qu'elle fasse son introspection, il faut que la CEDEAO fasse sa lutte au risque de perdre face quoi, dans des duels inutiles qu'elle pourrait avoir avec certains de ses États membres.
Et vous, Louis Magloire, que doit-on apprendre de cette crise, même au-delà de l'espace CEDEAO?
Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. La première, c'est que gouverné par le dogmatisme et par le fétichisme, aujourd'hui ne porte plus ses fruits. On l'a vu avec la règle qui consistait à limiter les mandats à 2, les mandats présidentiels. Cela n'a pas marché. Les gens ont trouvé le moyen de contourner cette règle-là. On le voit avec les coups d'État, même avec la menace des sanctions, ça ne marche pas. Donc ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que les gens comprennent que la CEDEAO, tout comme les autres organisations d'intégration africaine, sont véritablement là pour aider les peuples à mieux s'intégrer, à mieux vivre avec leurs frontières et à mieux affronter la mondialisation qui aujourd'hui est devenue un rouleau compresseur pour la plupart des pays, y compris pour les Africains. Je fais juste une parenthèse pour dire que c'est parce qu'il y a ce contexte de mondialisation que l'on se retrouve avec une guerre en Ukraine qui a des conséquences très fortes sur les économies africaines en termes d'approvisionnement en gaz, en essence et en céréales également. Donc je crois qu'il y a cette première observation à avoir. Et puis, il faudrait que l'Afrique arrive finalement à se prendre en compte, non pas seulement en étant dans les mesures pour la forme, mais des mesures qui sont appliquées concrètement. Le protocole additionnel dont nous parlions, il parle également de la bonne gouvernance, de la manière dont il faut intégrer la jeunesse, les femmes et toutes les autres couches sociales à la gouvernance des pays. Et comment on peut faire pour que cette gouvernance soit meilleure? Pourquoi le protocole s'arrête-t-il à la démocratie et oublie le deuxième pied, qui est celui de la gouvernance?
Et du développement aussi, d'accord. Un Niagalais, des institutions régionales comme la CDAO ou institutions internationales, est-ce qu'elles doivent laisser plus de temps aux dynamiques intérieures d'évoluer avant d'intervenir dans des crises politiques internes?
Moi, il me semble que la question qui se pose est celle du contexte dans lequel ont été forgés tous ces mécanismes de la CDEAO ou de l'Union africaine d'ailleurs, c'est-à-dire le contexte de la conflictualité des années 90 et des processus de démocratisation qui se sont déroulés pendant cette décennie de la fin du siècle dernier. Or, on s'aperçoit que les instruments qui ont été définis à ce moment-là, on parle du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, mais on peut aussi évoquer le mécanisme de 1999 sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits et de maintien de la paix de la CDEAO, qui semble aujourd'hui dépassé par les évolutions, non seulement de la conflictualité, mais également d'accession au pouvoir et surtout d'exercice du pouvoir. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les acteurs militaires qui avaient tendance à être considérés comme apolitiques et neutres sont de retour dans le jeu politique. Et il est difficile de ne pas compter avec eux. De la même façon, les mécanismes d'interposition, d'intervention qui ont été forgés à l'époque n'ont pas permis à des organisations comme l'Union africaine ou comme la CDEAO d'intervenir militairement ou d'un point de vue sécuritaire avec davantage d'efficacité. Donc le défi pour la CDEAO aujourd'hui est non seulement de revoir les protocoles relatifs à la bonne gouvernance, mais également ceux relatifs à la gestion des conflits. De ce point de vue-là, l'initiative d'Accra, qui rassemble un certain nombre de pays de la zone, est un chemin intéressant à mon avis.
Alors j'ai 2 minutes et je voudrais poser cette question à tout le monde. Niagalé, d'abord, sur ces critiques sur la CDAO durant cette crise avec le Mali, l'interventionnisme, le multilatéralisme sont-ils menacés? Rapidement.
Le multilatéralisme est menacé sur le continent africain comme il l'est de par le monde. Plus généralement, on voit très bien que notamment l'Organisation des Nations Unies est aujourd'hui paralysée par les oppositions qui se font jour au sein même du Conseil de sécurité entre d'une part les pays occidentaux et d'autre part la Chine et la Russie. Et malheureusement, l'Afrique traverse aussi cette crise multilatérale profonde.
Lumagua.
Oui, la crise du multilatéralisme, nous n'en avons qu'un avatar là supplémentaire avec ce qui se passe au sein de la CDAO, parce que à partir du moment où, à côté des Nations Unies, nous avons des clubs privés comme l'OCDE, comme le G7, le G20 et toutes les autres organisations qui se mettent en place, l'OTAN, et qui ont une grande importance dans le débat international, souvent même beaucoup plus que l'ONU, à partir du moment où on a accepté cette logique-là, on a accepté que l'ordre mondial tel qu'il est doit être réformé. Or, s'il n'est pas réformé pour permettre à chaque pays d'avoir la même voix sur la scène internationale, ce sera mission impossible de parler de multilatéralisme. Il faudra même revoir de prendre en compte le concept même de multilatéralisme.
D'accord.
Pour qu'il soit multilatéralisme.
C'est ça, 30 secondes.
Oui, moi je dirais non et oui. Non, puisque au même moment, au sein de l'espace fédéral, on voit la montée en puissance, par exemple, du juge communautaire. Au début de l'émission, je faisais allusion à cette décision de la Cour de justice de l'UEMOA. On se rappelle également la Cour de justice de la CEDEAO, à un moment, avait statué sur les parrainages au Sénégal. Donc, d'un côté, il y a un peu les chefs d'État sont déconnectés des réalités du peuple, mais de l'autre côté, il y a également le juge communautaire qui essaie de jouer son rôle et qui est beaucoup plus proche des peuples, des populations.
Voilà. Merci beaucoup, frère de ce Washington Forum. Merci à nos invités. À vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Encore merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.